dessous la cendre. Le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessous. Que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre. À moi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire ne veillent pas.
La nuit pourrait descendre. folie comme seule loi. Faudra que ton angoisse paraisse si se passe. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, nous invitons des organisateurs et participants de Regards croisés sur la paire aidance, première rencontre biennale des états généreux de la paire aidance, EGPA, qui aura lieu le mardi 28 mars 2026 à l'AERI, 57 rue Étienne Marcel, 9300 Montreuil, de 9h30 à 21h30, c'est-à-dire toute la journée. Et j'ai le plaisir d'inviter dans le studio Jérôme, Sylvain et Natacha. Bonjour.
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 Alors, ces journées, quelles ont été la motivation qui ont donné l'idée de la création de cette journée?
Ok, donc le projet des états généreux de la paire aidance, qui auront lieu le samedi, hein, samedi 28 et pas mardi.
Ah, tiens,
oui, samedi 28 mars à l'AERI de Montreuil. En fait, c'est un projet collectif, un projet né d'une rencontre entre plusieurs pères aidants, notamment des pères aidants qui ont suivi une formation à Bobigny de médiateurs de santé pères et qui ont eu envie à un moment donné de réfléchir et de réfléchir ensemble sur la définition de ce que pouvait être la paire aidance, qui est souvent citée aujourd'hui dans les systèmes que l'on intègre, que ce soit les systèmes sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, hein, en relation avec la santé mentale. Et du coup, on a eu envie, en fait, de partager un peu nos expériences de manière en présentiel, de se rencontrer, de se croiser, de se parler, d'échanger sur des expériences qui, déjà au niveau personnel, on a tous des parcours très atypiques. On arrive d'horizons très différentes, et puis on a tous l'expérience d'une pathologie qui nous a plus ou moins malmenés au cours de notre vie. Et pour certains, c'est une première expérience de formation, pour d'autres, c'est une reconversion. Et on intègre en fait des structures pas toujours préparées à nous accueillir, pas toujours bienveillantes, mais qui nous intègrent, sachant que l'on a toujours cette étiquette d'ancien patient. Et bien que nous soyons aussi des nouveaux professionnels, on est d'une nature un peu différente des autres professionnels. C'est-à-dire que notre savoir, la légitimité de nos postes vient de notre expérience. Et c'est donc un retour d'expérience que l'on est amené à effectuer et à proposer à la fois aux personnes que l'on accompagne, hein, les personnes qui sont bénéficiaires de ces unités, de ces services, et en même temps de travailler aussi vers les professionnels qui sont parfois très stigmatisants. Du coup, Stéphane Murat, qui est toulousain, qui n'est pas là aujourd'hui, mais m'a parlé en décembre 2024 d'un projet et d'une expérience qu'il avait vécue avec les rencontres intergalactiques de la paire et danse qui avait lieu à Marseille. Il avait envie de revivre ce type d'échange qu'il avait trouvé particulièrement stimulant. Et donc, il m'a fait part de son projet de monter un événement qui s'intitulerait « Les états généreux de la paire et danse ». Moi, ça m'a tilté tout de suite. J'ai eu envie aussi de m'engager dans la restitution d'une expérience assez originale et assez inédite, et voilà, de rencontrer des collègues, des pairs, pour mettre en commun nos expériences et parier sur l'intelligence collective plutôt que de rester à vivre, voire parfois subir, un certain nombre de pressions dans mon coin tout seul.
Bien, c'est...
Bon, alors, si tu veux, après, les choses se sont plus ou moins enchaînées. J'avais une certaine expérience dans le domaine de la conduite de projet. Du coup, on s'est dit, eh bien, on va monter une association. Ce qui nous a pris du temps. Et puis, on a rencontré un certain nombre de collègues, dont Sylvain, qui est là, présent, que j'avais rencontré sur des événements liés à la santé mentale organisés par Santé Mentale France ou Pop & Psy par la Fondation Falleret. Donc, en fait, des acteurs très institutionnels qui ont pignon sur rue. Et on a sympathisé, et puis, petit à petit, on a constitué à la fois le projet et le dossier, et puis on a rencontré un certain nombre de personnes pour arriver donc à notre journée du 28 mars, de 9h à 9h, à Montreuil, à la Hairie.
En fait, c'est une histoire de rencontre. C'est la rencontre de pères aidants qui se reconnaissent entre eux et qui se disent « Waouh, si on faisait une association, et quelle association on ferait ?» Jérôme parlait de la formation MSP. Moi, je suis père aidant, je suis éducateur spécialisé de formation et j'ai un parcours de soins qui fait que je suis venu à la paire aidance. Je vais me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Sylvain Dagiral, j'ai 47 ans. Après un parcours en soins infirmiers, je fais éducateur spécialisé où je travaille 10 ans en foyer de vie pour des personnes en situation de handicap mental et 3 ans en COS, en centre d'accueil d'urgence de soins, où là, je tombe malade. Et là, c'est un peu le drame parce que je me dis, purée, je vais perdre mon boulot et comment je vais faire pour rebondir. Et voilà, une errance de quelques années de recherche de qu'est-ce que j'avais en fait. Et en fait, on a trouvé le diagnostic, j'ai des troubles bipolaires. Moi, l'aventure, ça a été de partir, de se dire qu'est-ce que c'est que les regards croisés de la paire aidance. Et pour moi, les regards croisés de la paire aidance, c'est la rencontre de personnes qui ont des parcours de vie qui se croisent. C'est la paire aidance intrafamiliale, c'est la paire aidance dans les milieux carcérales, c'est la paire aidance dans différents endroits. Et le but de ces rencontres, c'était un petit peu de croiser ces regards et de se dire, Ben, qu'est-ce que toi tu fais dans la pérédance et qu'est-ce que moi je fais dans la pérédance et apporter du savoir expérientiel avec tout ça et du savoir qui peut servir à réfléchir un petit peu à comment appréhender les choses. Et donc voilà.
C'est vrai qu'il n'y a pas que... Enfin, la pérédance, ça ne concerne pas seulement la psychiatrie. Il y a une pérédance, par exemple, des exilés ou...
Oui, c'est vrai, ça concerne... Il y a toute forme de pérédance. Donc, il y a la pérédance, bien sûr, en psychiatrie, pour la pérédance aussi. Mais moi, par exemple, je travaille avec les petits frères des pauvres. Les petits frères des pauvres, c'est des personnes... J'accueille des personnes qui ont 50 ans et plus, qui ont connu la rue... Et donc c'est aussi une forme de pérédance, et c'est l'accompagnement est différent, c'est aussi intéressant et croiser ces regards, je trouve que c'était intéressant. On a trouvé que c'était super intéressant parce que justement l'approche est différente et du coup on peut s'enrichir les uns des autres, on peut mutualiser les compétences, on peut et ça je trouve que c'est assez fort. Et puis je voulais dire que les EGPA, c'est une association qui est horizontale, on va dire. C'est-à-dire que c'est une collégiale en fait. Chacun a son fonction, mais on peut interagir ensemble et on peut fonctionner ensemble en étant les décisions se font de façon collégiale. Et puis j'aimerais bien parler de du pouvoir d'agir, en fait. On est tous des personnes avec des troubles psy, on est tous des personnes concernées, et on a réussi à monter une association, et on a réussi à monter un colloque, et ça, c'est très fort. Et on se dit, les personnes concernées, c'est pas possible d'être dans de réaliser des choses, et nous, on montre par l'exemple que c'est possible. Voilà.
Merci. Natacha, peut-être tu peux intervenir si tu veux.
Merci en tout cas pour vos deux interventions. Enfin, oui, ça reprend un peu les grandes lignes aussi de pourquoi on est arrivé à la pérédance et quelles sont les actions et les mots-clés aussi qu'on associe pas mal à notre pratique sur l'empowerment. Et en départ, c'est vraiment les questions de solidarité et ça commence dès les soins, l'hôpital, les hospitalisations et de quelle façon finalement entre patients, entre personnes en soins, on essaye de tenir le coup parce que, alors, Jérôme, tu parlais de malmènement par la maladie ou en tout cas les troubles, mais moi, je dirais surtout malmènement par les institutions de soins. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était aussi beaucoup ça. Et à quel point nos diagnostics, nos étiquettes qui sont tombées, parce qu'une ou plusieurs pathologies, même dans certains cas, on cumule aussi des traitements associés. De quelle façon, en fait, on a réussi à la fois à tenir le coup sur place et ensuite à en faire quelque chose de ces parcours, ces CV un peu troués, justement, où dans le milieu du travail, on est très vite stigmatisé, étiqueté, et même sur le terrain, finalement, de la pérédance, on se rend compte que c'est pas si simple, malgré le fait de côtoyer des soignants, des personnes qui ont des parcours proches d'une autre, on retrouve en fait cette illégitimité de dire, de faire... bien souvent, en fait, et la question de l'horizontalité, elle est très belle à entendre et à imaginer, mais c'est vrai que concrètement sur le terrain, pour de multiples raisons, en fait, on est souvent quand même ramené à notre statut, notre parcours, et nos savoirs ont moins de valeur, en tout cas, que les savoirs professionnels de soignants, selon les statuts, les rôles aussi et les parcours de formation. Donc, trouver sa place, c'est toujours très compliqué. Alors, justement, je pense qu'on aura de multiples témoignages le 28 avec des expériences qui sont plus ou moins bien passées et des formats très différents entre des pères aidants salariés d'institutions qui travaillent dans des associations, des pères aidants indépendants, des pères aidants autodidactes. Enfin, il y a toutes sortes de façons d'entrer dans cette activité. Et je crois que nous trois, on a effectivement fait la même formation, la licence à Bobigny, mais il y a plein d'autres voies. Peut-être tu me contrediras, Sylvain. Il y a plein d'autres voies d'entrée, en tout cas, dans cette activité, de manière formelle et informelle. Et effectivement, la pérédance est partout, en fait, pas forcément sous cette appellation. Mais déjà, quand on commence à travailler, et les équipes qui travaillent avec nous, on se rend compte qu'il faudrait qu'il y ait de la pérédance dans tous les domaines de la vie. Parce que ces intermédiaires n'existent bien souvent pas, alors qu'en fait, les problèmes du collectif et de l'organisation dans des structures et des équipes sont bien souvent, ont besoin d'intermédiaires et de personnes aussi qui prennent de la distance ou qui vont avoir un regard autre ou alternatif aussi sur des situations. Donc c'est hyper intéressant en tout cas, cette idée d'intégration de personnes concernées.
Alors il y a eu en 2023, je crois, des recommandations de la HAS qui a encouragé la paire aidance à entrer dans les systèmes de soins et les équipes soignantes, ce qui avait à l'époque créé une levée de bouclier de certains psychiatres qui trouvaient que les patients, enfin les personnes psychiatrisées, étaient bien trop vulnérables et pouvaient tomber entre les mains de sectes, etc. Et puis il y a une réaction des associations et organisations qui soutenaient la paire aidance par rapport à ça, donc une réaction à la réaction, et puis aussi des amis des pères aidants et des pères aidants eux-mêmes qui ont réagi aussi à cette époque. Donc il y avait une bataille comme ça, ou une micro-bataille qui concernait la paire aidance. C'est quand même un objet un peu pas explosif, mais disons une patate chaude quelque part, la paire aidance, ou qu'est-ce que...
Patate chaude, je sais pas, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que en ce qui concerne en tous les cas les soins psychiatriques, le système est un peu en bout de course, c'est-à-dire que par rapport à des maladies dites chroniques, ce qui n'est pas tout à fait le cas en fait, mais on a l'impression que l'institution travaille pour elle et travaille à produire de la personne psychiatrisée pour avoir en fait des gens dont il faut s'occuper, et on observe bien souvent que on rentre peut-être assez brutalement en psychiatrie, mais on en sort très difficilement. C'est-à-dire que l'accompagnement, qui est plus souvent désigné comme une prise en charge, est tout au long de la vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'introduction des pères aidants, on a réinjecté dans le système un retour d'expérience. Et on s'est rendu compte, en fait, que par exemple sur le thème de la violence qui était vécue en fait par les équipes comme étant eux-mêmes victimes de violence, ils ne prenaient pas la mesure de la violence de leur prise en charge, de leur accompagnement, de la privation de liberté que représentait par exemple une hospitalisation, même en soins libres, où on se retrouve dans des unités qui sont fermées, où on se retrouve mis en pyjama, privé de ses effets personnels, et où on est bien souvent sédaté, parfois isolé, parfois contentionné. Bref, c'est un système de soins qui est en fait extrêmement violent, et la violence dont faisaient état les équipes est beaucoup plus réactionnelle que spontanée. Donc, par exemple, depuis que l'introduction de la paire aidance dans les systèmes de soins français, on parle beaucoup de moindre recours à la coercition. Il y a beaucoup de réflexions institutionnelles où on se dit, effectivement, le système marche mal. Et pour qu'il marche mieux, on a besoin d'éléments nouveaux. Et les pères aidants sont les personnes qui apportent ces éléments nouveaux, sachant que, notamment en psychiatrie, mais dans tous les secteurs médico-sociaux et sociaux, coexistent en fait des temporalités. Des temporalités qui sont scientifiques, médicales, qui sont administratives, et en psychiatrie, l'administration est très importante, et la temporalité des personnes en soins qui font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir avec les outils qu'on leur apporte. Et la sensibilité, en fait, des personnes, des pères aidants, personnes concernées, fait que le système se réinvente, mais avec des luttes de pouvoir qui sont quand même très importantes. Et le rôle des pères aidants est très souvent instrumentalisé, c'est-à-dire qu'on veut bien qu'ils nous apportent un certain nombre d'éléments pour améliorer notre pratique, mais on ne voudrait pas, surtout pas, que la réflexion aille trop loin. Et c'est pour ça que, en tous les cas, à titre personnel, j'ai eu le besoin de retrouver mes pères, de trouver mes pères et de les rencontrer pour partager, en fait, ces analyses un peu systémiques. Parce que on est souvent pris comme témoin. On nous demande de témoigner de nos parcours, on nous instrumentalise en fait de manière très claire, mais on ne souhaite pas que notre analyse aille trop loin dans les préconisations que l'on aurait à faire. Quand je dis trop loin, c'est poser des questions médicales, poser des questions administratives et finalement sortir un peu de la stigmatisation que ces milieux, en tous les cas le milieu psychiatrique, véhicule sans en avoir tout à fait conscience.
Oui, alors pour donner un peu de l'eau à ton moulin, quoi, y a un texte de Philippe Maugiron en mai 2024 dans Pensée Mentale, Santé mentale, qui évoquait ces points de difficulté entre la pair aidance et l'institution elle-même, l'institution de soins. C'est par exemple que l'institution a tendance à hiérarchiser les savoirs en fonction de critères sociaux et professionnels. Plus un contenu s'éloigne des normes établies, plus il peut être difficile à légitimer. Les savoirs expérientiels peuvent donc être marginalisés. C'est un point qu'il avait soulevé, par exemple. Les savoirs expérientiels sont souvent imprégnés de valeurs des valeurs des personnes qui peuvent remettre en question les pratiques traditionnelles. On observe que l'institution peut minimiser ces aspects critiques. C'est-à-dire que finalement, il ne faut pas être trop critique par rapport à l'institution, sinon on se fait un petit peu... voilà, et d'autres points. L'institutionnalisation des savoirs expérientiels varie en fonction du contexte culturel et historique. Ce qui est considéré comme un savoir expérientiel précieux dans une culture peut ne pas l'être dans une autre. On ne peut pas protocoliser les pratiques des pères aidants professionnels au risque d'une perte de flexibilité et d'adaptabilité. Or, les normes et les protocoles sont souvent nécessaires. L'institutionnalisation peut exclure les savoirs expérientiels de groupes marginalisés ou minoritaires. Les critères d'inclusion peuvent être biaisés en faveur des normes dominantes, laissant de côté des perspectives importantes. Voilà. Donc, l'institutionnalisation et la professionnalisation induisent une tension entre reconnaissance et perte d'authenticité, écrit Philippe Maugiron. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ces idées-là ?
Ben moi, je voulais dire qu'il y a autant de pères aidants qu'il y a de professionnels et que la pères aidants est assez singulière, mais bien sûr régie par un cadre. Moi, je prends mon exemple personnel où j'ai fait des formations en tant que formateur père Et ensuite, j'ai été amené à la Père Aidance, mais c'est un chemin, c'est un parcours. Et on se retrouve à en fait savoir vous parlez d'institution, l'institution, par exemple, on sait que 70%, je crois que c'est ça le chiffre, qui personne qui rencontre une père aidant au cours de son parcours de soins a moins de chances de rechute que s'il ne rencontrait pas un père aidant. Et ça, je trouve ça important. Et puis, le père aidant, c'est le lien entre l'infirmier et puis le médecin. C'est une personne qui va traduire en termes plus communs ce que c'est que les termes scientifiques qu'utilise le médecin. Et l'approche va être horizontale. Et on se reconnaît, en fait, dans la père aidance. Chacun se reconnaît un vers l'autre et se dit... on est porteur d'espoir, en fait, parce que quand ils nous voient en rétablissement, ils se disent « Ah, mais peut-être que pour moi, c'est possible aussi. » Et je pense que c'est important de l'entendre, qu'on donne de l'espoir. On donne de l'espoir aux personnes. Et voilà ce que j'avais à dire.
Oui, Philippe Maugiron, on le connaît bien. Il a participé aux enseignements que j'ai suivis à Bobigny en 2020-2021. C'est évidemment l'apparition d'un nouvel acteur dans le système de soins, que ce soit psychiatrique, somatique ou même dans d'autres domaines. C'est l'apparition d'un nouvel acteur qui, en fait, comme le dit Sylvain, est porteur d'espoir, mais aussi qui agit avec un principe assez simple, c'est « je ne fais pas à l'autre ce que je ne voudrais pas que l'on me fasse ». Voilà. Qui connaît de l'intérieur... les systèmes dans lesquels il s'inscrit, qui connaît les travers aussi, et qui fait une sorte de médiation, de traduction, effectivement, qui peut expliciter les rapports de force en présence, et qui œuvre avec générosité. Et en tous les cas, moi, ma posture, c'est d'essayer d'émanciper le plus vite possible les personnes que j'accompagne, qu'elles puissent le plus rapidement se passer de mon aide, leur donner les clés, en fait, de compréhension d'une situation pour qu'elles puissent, en fait, s'en affranchir.
Et peut-être pour... faire le lien aussi avec la journée du 28. Enfin, Philippe Maugiron, justement, avait organisé en 2020 un colloque aussi. Enfin, c'était aussi sous le soutien aussi d'un comité scientifique de professionnels qui ont plus de statut que nous, mais qui s'appelait De pair à pair et qui avait eu lieu aussi à Paris, avec l'invitation de pair aidants à l'international qui avait pris la parole majoritairement, parce qu'il y avait aussi des interventions de professionnels de santé plus classiques. Mais c'était une première tentative, je pense, de rencontre entre pairs qui avait eu lieu où j'étais présente cette journée. Mais avec aussi son association, la Fédération francophone des MSP, qui je crois n'a pas duré dans le temps. C'est quelque chose qui a été aussi porté par une personne, Philippe Maugiron. Donc c'est peut-être aussi la fragilité où beaucoup de collectifs de pairs aidants ont essayé, dans l'histoire de la pair aidance, de se former. Et on a du mal, en fait, à tenir dans la durée. C'est souvent un peu la difficulté. Il y a aussi toutes les questions de distance géographique, de mixte, de parcours et de formation et de travail in situ. Mais donc, après, suite à ça, on a effectivement eu aussi l'expérience des rencontres intergalactiques du travail pair à Marseille, qui était un mélange de travailleurs pair et travailleurs sociaux, en fait, dans l'organisation. C'était aussi un chouette moment de rencontre qui avait aussi ambition de se reproduire ailleurs, mais toujours les difficultés auxquelles on est confronté aussi du fait de nos difficultés personnelles. Enfin, c'est un point aussi sur lequel insister, la façon dont on s'organise quand on est porteur de troubles, de handicap, et toutes les aménagements que ça nécessite, l'énergie que ça nécessite, les moyens matériels, financiers. Enfin, c'est pas simple, c'est pas une association lambda, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a autant de mal, je pense, à tenir dans le temps et à organiser des choses entre nous. Et pour revenir un peu sur ce que vous disiez, enfin, et sur ce que tu disais aussi, Denis, sur, en citant Philippe, sur la question des savoirs, d'expérience, et à la fois qui sont minimisés, mais qui sont aussi beaucoup exploités, en fait. Enfin, c'est ce que tu disais aussi, Jérôme. Cette pratique qu'on dit d'extractivisme des savoirs de personnes concernées versus ceux des savoirs sachants, en fait, à quel point, du fait de nos statuts précaires, avec plus ou moins un fait d'études, etc., nos témoignages sont utilisés ou réemployés par les professionnels de santé en leur propre nom. Et ça, c'est extrêmement grave et décrédibilisant. Et à nouveau, on est ramené à nos étiquettes de personnes mineures, ou en tout cas exclues de la société. Mais par contre, nos savoirs sont intéressants et nos présents dans les équipes à la fois sont de cette façon utilisés. Et il y a toute la difficulté aussi de ce qu'on véhicule. Alors oui, on porte l'espoir, ça c'est une chose très très importante, notamment pour les personnes concernées, pour les proches, pour certains soignants aussi. Mais il y a aussi, on peut provoquer la peur, parce qu'on vient mettre un flou entre une personne, entre guillemets, saine d'esprit, une personne qui aurait des troubles psychiques, et des fois les soignants réalisent que demain ça peut être eux, les personnes patientes. Et ça, moi, j'ai plusieurs expériences personnelles, et je pense que vous aussi, de parler de notre parcours, et que justement cette question de se mettre à la place d'eux et de se dire, je veux pas qu'il m'arrive, je mettrai pas des professionnels qui disent, je veux que mon service de santé, je puisse y mettre ma famille, donc je dois être. Mais vraiment de se dire que demain, ça peut être moi qui suis de l'autre côté du mur, patient, enfermé, etc. Ça fait très peur aux équipes. Et en général, ça crée ou du rejet, ou de l'hostilité, ou au contraire, rarement, mais quand même de la complicité et une forme de remise en question des pratiques. Mais en général, c'est quand même très, très disparate dans les équipes, quoi. Donc on est face à des situations compliquées, relationnelles, d'accueil, d'acceptation et de remise en question d'un système qui est quand même assez chronique, quoi, dans ses pratiques, bien souvent.
Eh bien, c'est ce que permettra cette journée de regard croisé sur la pair aidance, les premières rencontres biennales des états généraux de la pair aidance, d'explorer, de découvrir. Et on se retrouve juste après la chanson qui s'intitule « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». Et nous parlerons de cette journée de samedi 28 mars.
Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est un imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. Je partageais ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plage, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. La vérité est agaçante. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. We'll be right back. ressemble à Oda de la Star Academy 4, Mathilde à Lily Cole, Celia à Erika Durance qui joue dans Smallville, Christophe ressemble à Samir, le cousin de Benzama, qui apparaît dans Hollywood Girls. On l'aime pas trop, il est con. Il s'était accouplé avec Aurélie dans L'île des Vérités. Aucun ami ne ressemble à Bradley Cooper. Peut-être un jour, ce sera la surprise.
Stéréotypie, aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89,4 FM, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Alors nous parlions de Père et Danse et nous parlions de la journée. Alors nous sommes avec Jérôme, Natacha et Sylvain, donc qui organisateur et triste de cette journée. Je vous laisse.
Oui, c'est la journée des états généreux de la Père et Danse, voilà, le samedi 28 généreux. Mars à Montreuil, j'allais dire Marseille. à Montreuil, de 10h à 21h, une journée consacrée donc au regard croisé sur la paire et danse, sur une mutualisation d'expériences relatives à cette discipline qui se développe et qui est en fait porteuse d'un avenir... d'un avenir radieux. En tous les cas, on le souhaite. Et puis, il sera question de vulnérabilité, d'utilité sociale, de comment finalement des personnes à qui on a dit un jour « Eh bien, vous êtes malade, vous êtes handicapé, vous allez passer de l'autre côté de la barrière », eh bien, se rebellent. Refusent les pronostics qui sont associés au diagnostic et disent « Mais non, j'ai une vulnérabilité, certes, j'en prends conscience, je fais avec, mais je fais partie de la société, je fais partie du groupe et je vais vous montrer que je peux apporter, pas uniquement sur le plan artistique, même si c'est très important, mais les artistes, on le sait depuis longtemps, Vincent Van Gogh, que ce soit Leonora Carrington, Camille Claudel, enfin, tout un tas de personnes qui ont émaillé l'histoire de l'art et qui avaient des diagnostics psychiatriques. Aujourd'hui, il s'agit de promouvoir cette vulnérabilité dans d'autres domaines, des domaines sociaux, des domaines politiques, faire en sorte que la société dans laquelle on vive soit plus soutenable, plus agréable, et on porte comme ça un certain nombre de valeurs issues de notre expérience, dont on a souffert, l'absence de reconnaissance. Et on s'organise entre nous pour dire qu'on existe, qu'on est là, qu'on fait des choses, et des choses inspirantes. Le rétablissement, les mouvements de psychiatriser, dont on reprend les slogans « Rien sur nous sans nous », « Si c'est contraint, c'est pas du soin », des phrases comme ça. Il y a des précédents, on s'inscrit dans une histoire et que l'on réinvente avec donc ces regards croisés sur la pérédance le samedi 28 mars.
Ce 28 mars, où il y aura un programme assez riche d'ailleurs, donc une ouverture, une table ronde pérédance et émancipation le matin, le déjeuner préparé par l'équipe de Dalila, des ateliers. Il y en a plusieurs. L'addiction au féminin, parlons-en, savoir expérientiel, animé respectivement par Sylvie Coulombet et Pierre Vandenberg, et Céline Masson. Il y aura du théâtre forum, intitulé « Qu'est-ce que tu as dans ton cartable ?» par les oufs du 67.
Oui.
Alors, c'est les oufs du 67, c'est un jeu.
C'est un collectif de pères aidants qui viennent donc d'Alsace.
D'accord.
Et voilà, en fait, le projet s'est monté autour d'un comité éditorial que l'on a constitué au sein de l'association, composé de différents pères aidants et alliés. Parce que on n'est pas sectaire, on accueille aussi les personnes de bonne volonté qui comprennent, acceptent et partagent nos points de vue, notre vision. Et on a fait un appel à communication au niveau national à travers un certain nombre de réseaux sociaux. Et je suis super content parce que Natacha, SNG, a répondu rapidement à cet appel à communication. Je la connaissais comme collègue des hôpitaux de Saint-Maurice, et puis je l'avais vue partir, ça m'avait attristé, et je suis son travail depuis, et que je trouve très inspirant, très très authentique, et où elle pointe de manière très pertinente des dysfonctionnements et qu'elle interprète avec ce qu'elle est et avec sa personnalité. Et donc, elle va enrichir cette journée d'une performance sur donc son départ de la péniche de la Damante.
Ah oui.
Dont on a entendu quand même beaucoup parler à travers les documentaires de Nicolas Philibert.
Oui, donc après le Théâtre Forum, à 17h30, performance, effectivement, qui sera suivie, dit le programme, d'une discussion avec le public.
Oui, mais merci pour cette mise en valeur de mon intervention. Mais il y aura beaucoup d'interventions qui sont artistiques et créatives, je trouve, et ça me réjouit aussi beaucoup, puisque c'est vraiment mon outil de travail et de résistance depuis ma naissance, on va dire, de trouver des subterfuges aussi pour traverser des expériences avec l'art sous toutes ses formes. Et effectivement, alors, j'ai eu plusieurs départs dans la pérédance, c'est aussi ça qu'on pourra discuter après cette performance. Parce que j'ai travaillé sur plusieurs structures dans la région Île-de-France et après un peu plus loin aussi, et souvent avec des expériences difficiles, douloureuses ou en tout cas d'incompatibilité ou de rejet, enfin de multiples raisons en fait qui m'ont amené à faire du nomadisme dans la pérédance, on va dire. Et ce qui est assez rare et difficile, puisque on sait que les postes à pouvoir sont pas immenses et que les critères des fois sont très spécifiques aussi. Il faut avoir fait la formation ou être en formation pour pouvoir avoir des aides de l'ARS, etc. Enfin, il y a plein de paramètres, et des fois nos diagnostics aussi nous compromettent parce que c'est pas ceux que veulent les institutions. Donc c'est pas simple de travailler quand on a même des titres ou des diplômes de père aidant ou d'autres formations dans le milieu. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais...
Eh bien oui, une performance donc qui va être...
Oui, suivie d'une discussion dans l'idée vraiment de pouvoir ouvrir à ces expériences aussi dont on parle peu en fait. Enfin, on en parle pas mal dans les groupes de pères aidants justement, mais c'est entre nous, des difficultés sur le terrain, en poste, et parfois des départs ou en tout cas des décompensations aussi. Enfin, il y a toute raison aussi de devoir stopper son activité ou la transformer ou passer à d'autres choses, à d'autres formations pour compléter aussi son parcours. Mais moi je trouve que c'est important et je l'apporterai, j'espère, d'une façon positive, puisque j'ai fait quelque chose de ce départ et d'autres départs, et je pense que c'est toujours cette idée de porter l'espoir et de sublimer ou en tout cas transformer des expériences qui pourraient être considérées comme négatives ou comme des échecs en d'autres choses, et à nouveau aussi pour visibiliser notre parole qui est quand même très, très peu présente dans le paysage de la santé mentale, ou alors sous des formes très consensuelles malheureusement, enfin en tout cas c'est vraiment mon point de vue. Et quand j'ai vu passer votre appel, il me semble que c'était en fin d'année dernière, j'étais contente qu'un événement par et pour les pères aidants se monte. Puisque en général les événements qui sont montés par les institutions ou les associations gestionnaires, etc., ne m'invitent pas ou ne m'autoriseront pas à prendre la parole si facilement. Donc je pense que j'étais déjà venue à Radio Libertaire parler de ma démission dans les archives, mais en tout cas oui, j'espère qu'on aura d'autres paroles comme ça qui sont pas celles qu'on attend, mais qui ouvrent aussi le spectre vers d'autres façons de penser et de transformer nos expériences aussi difficile, douloureuse et originale soit-elle.
Et puis la père aidant, c'est un problème de légitimité aussi. On se pose la question de est-ce que je suis légitime pour être père aidant ? Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire ben ouais, j'ai un parcours de soins, ben ouais, j'ai été hospitalisé, ben ouais, j'ai ça. Mais est-ce que je suis légitime pour faire ça ? Et je pense que le regard croisé de la père aidant, c'est ce qu'on va présenter au colloque. Ça va être intéressant dans le sens où on va se rendre compte peut-être que chacun est légitime à sa mesure de faire de la père aidance. Chacun peut à sa mesure faire de la père aidance. Alors bien sûr, il y a des formations, bien sûr, il y a un savoir expérientiel, bien sûr, il y a un savoir académique, mais il y a aussi, je crois que le père aidant, il travaille avec ce qu'il est, sa valeur, ses valeurs, qu'est-ce qu'il peut amener, comment il peut l'amener, et je crois que il y a autant de pères aidants qu'il y a de personnes qui sont en recherche de pères aidants, c'est-à-dire que une personne je perds mes mots. Une personne qui est accompagnée va à un moment donné, c'est une histoire de rencontre en fait. Une personne accompagnée va rencontrer un père aidant, ça matche pas. Et si ça match, c'est bien. Il va y avoir un suivi. Il va y avoir et je crois que le regard croisé de la père aidant, c'est ça. C'est montrer que ouais. Eh ben, chacun peut apporter une pierre à l'édifice.
Oui.
Voilà ce que j'avais à dire.
D'accord. Et donc, le descriptif des interventions de cette journée.
Oui, alors, table ronde. Juste table ronde.
Alors, père aidant, c'est émancipation, le thème. Hein,
alors, ça va être discuté jeudi par les intervenants. Vraiment, on fait le pari de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti avec un cahier des charges et des objectifs très définis à viser à atteindre.
Avec des individus en compétition les uns...
Voilà, on ne va pas chercher à... Ça ne va pas être une lutte des égos et de celui qui aura raison... par devers d'autres, mais c'est vraiment une invitation à réfléchir ensemble. Et quand je dis ensemble, je parle évidemment des pères aidants, mais aussi des personnes concernées, mais aussi du grand public, des alliés, parce que on s'inscrit donc dans un système, dans un groupe que l'on accepte, que l'on revendique, dont on revendique notre appartenance. Et donc, c'est important que cette invitation puisse être entendue par toutes et tous. Voilà, ça sera un moment convivial. Il y a effectivement, on fait appel à une association locale qui va nous faire à déjeuner et à dîner. Voilà, le programme est pas trop chargé comme c'est parfois le cas. On aura le temps de discuter, de boire des cafés, vraiment de faire connaissance. Et c'est le pari de l'intelligence collective qui est fait.
Alors, on avait cité tout à l'heure... Ah oui, vous voulez ajouter quelque chose ?
Je voulais juste, peut-être juste expliquer aussi pourquoi l'entrée est payante. Pour raconter aussi que l'association, donc... aussi et fonctionne grâce au bénévolat de Père Aidant et qu'il y a des intervenants qui viennent de plusieurs endroits de la France et c'était important, je pense, pour pouvoir les défrayer. Donc l'entrée au prix de base, c'est 5 euros pour pouvoir à minima défrayer les intervenants qui viennent de loin, sachant qu'il y a quand même eu des intervenants qui ont dû renoncer pour des raisons justement financières. Donc c'est important que les gens aient conscience de ça aussi, que c'est une organisation par des personnes qui, la plupart, sont dans une précarité réelle. On est, je pense, plusieurs à avoir un statut de personne handicapée, à travailler avec des revenus très modestes et l'AAH en complément, voire que l'AAH parce qu'on n'arrive pas à travailler. Donc ça, c'est une réalité aussi à prendre en compte. Donc il y a aussi la possibilité de faire des dons à votre association pour soutenir l'événement et peut-être les événements futurs et aider en tout cas ces interventions et que cet événement se déroule au mieux. Et après, effectivement, il y a aussi... donc l'AERI, c'est aussi un lieu d'accueil de beaucoup d'événements d'associations et militants. Donc c'est un lieu qui a aussi du sens pour accueillir cette journée. Et avec la cantine dont tu parlais aussi, qui est une cantine très, très joyeuse. Enfin, j'avais déjà eu l'expérience de faire des événements là-bas. Donc c'était un peu expliqué, ouais. Donc il y a plusieurs paliers de participation et de financement. Et c'est pour ça que c'est pas gratuit, mais c'est vraiment dans l'intérêt des pères aidants qui vont intervenir, quoi.
Alors, j'avais cité tout à l'heure les oufs du 67, mais il y a pas mal de personnes qui interviennent dans cette journée. Géraldine Frotin, Camille Henrignard, Roxane Mazalon, Emmanuel Urbu, Sébastien Haïm, Mélanie Jeannaudin, Sylvie Coulombet, Pierre Vandenberg, Céline Masson, et puis Natacha Guy aussi.
Voilà. Si vous tapez état généreux de la paire aidance dans un moteur de recherche, vous tomberez donc sur. On a constitué un blog qui expose un peu la démarche. Il y a aussi sur Hello Asso. La possibilité de taper état généreux de la paire aidance et vous tombez donc sur toute la billetterie est en ligne en fait. Donc c'est très accessible. Voilà, ça va être un moment joyeux, ça va être un moment de partage. On espère qu'il y aura du monde. Sachant que les états généreux de la paire aidance ont comme objet d'organiser un événement tous les 2 ans. Donc ça aura lieu dans 2 ans à nouveau. Et l'autre objet de l'association, en dehors de l'organisation de cet événement, c'est la recherche. Donc il va y avoir une mesure d'impact à laquelle vous serez invité à répondre, en fait, c'est un questionnaire, si vous venez à ce moment de partage.
Eh bien, merci d'être venu et d'être venu nous annoncer cette journée qui, eh bien, voilà, qui va nous ouvrir un peu les portes de certaines connaissances que nous n'avions pas toujours. Et nous allons finir avec ce morceau Les gestes qui sauvent, un slam de Natacha Guillet qui s'était créé à l'époque du Covid. Les gestes qui sauvent, donc. Et nous disions à Radio Libertaire éloignez-vous d'un maître. Voilà. Eh bien, au revoir et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir.
vaste immense loft, un silence de sidération débordait des mois en claquettes. Des corps affinés, des épaules arrondies, des hanches s'aimantaient discrètement par paires. La jetée des regards timides, limite angoissée au faisceau de vent sur l'estrade, parée de sombres de circonstances, hélas. Des mouvements lents indiquaient le trépignement contenu par l'effroi inédit rassemblement des gestes qui sauvent. Avec pour inquiétude l'effacement de routines bien ancrées, la défaillance musculaire jusqu'au cataclysme d'égouts printaniers des ondes jazz ou du boon se larmoyant en blues. Quelques premiers accords signent l'entrée en contact conjoint de deux allures en silhouette échauffée par le temps, l'époque incertaine, trop peu pour s'égarer en figure souple. La musique prend de la vitesse et s'enfonce dans les meubles juste époustés de la veille, se reflète au parquet qui brille à présent noyé de passes plus vives et adroites. Les gens se délient, visages blancs devenus roses, ocre, brun et ébène, fumant hydromètre d'humilité et de miracle, le sourire à la taille du mouvement d'édifice après ces mois rivés aux chevilles stagnantes. Le bal swing, basson plein, des chevelures métissées de tons volants au cou et coudes scellés de danseurs qui s'enlacent ivres en réveillant leur ballet au rythme de ces instruments dans lesquels on respire, dépasser la tourmente.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Tu casses les âmes côté bout, tu casses une en ouest.